Entamer la dernière partie de la matinée avec deux interventions, une en présentiel avec Michael Herrera et puis une avec Denis Bourguet qui est en ligne, en Skype, qu'on voit là dans la petite fenêtre et qui pourra présenter juste après. Et donc là, on va passer à des plateformes éditoriales un peu collaboratives, un peu différentes. Et donc Michael va faire la première intervention sur Publiscience. Michael est docteur de l'Université Paris 7 en génétique et chercheur CNRS depuis 2013. Il a démarré son équipe de recherche ATIP Avenir à Sorbonne Université en janvier 2018 et étudie les mécanismes moléculaires impliqués dans le vieillissement. Voilà. Fort de son expérience de chercheur confronté au système de publication actuel, il a décidé de proposer une alternative redonnant toute sa place aux chercheurs et aux institutions dans la chaîne de création de valeur de la recherche. Et puis, je vais présenter aussi quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est le cofondateur de Publiscience, on peut dire ça comme ça, qui est Nicolas Héberlé, qui est un ingénieur diplômé de l'École centrale, qui a développé une forte expertise dans l'analyse de données et le développement de logiciels au cours de 8 années d'activité au sein de la société privée Airbus. Il a quitté son poste chez Airbus en 2018 pour cofinancer avec Michael et présider la start-up Publifactory, et obtient son incubation par Paris & Co. et la bourse de lancement par la BPI à l'automne 2018. Et puis, Michael va vous raconter tout le reste tout de suite maintenant. Voilà.
Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Odile, et merci au réseau pour l'invitation. C'est sans doute la première fois, je pense, que je présente Publiscience devant un auditoire d'experts du domaine. On a... intitulé cette présentation « Désubérisons la publication scientifique ensemble » de manière un peu provocative. Donc je vais refaire un rapide survol de la façon dont on publie actuellement. Donc en tant que chercheur, on va produire avec des outils assez disparates nos articles qui vont ensuite être envoyés avec des techniques de choix des journaux destinataires dépendant un peu des disciplines. Donc ces articles à des éditeurs qui ensuite vont décider ou non, en tout cas pour la biologie, de jeter un œil et de convoquer un collège d'experts, de pairs experts, donc des peer reviewers. Après un ensemble d'allers-retours sur ces articles, on se retrouve avec un peu de chance avec une publication, la plupart du temps à prix d'or. Pareil, en fonction des disciplines, on a une grosse disparité des coûts. Et
ce sera mieux.
D'accord. Là, vous m'entendez. Oui, c'est très bien. Et Ensuite, ces publications sont un peu indispensables pour les progressions de carrière et autres. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans tout ce process, il n'y a qu'une part minime du travail qui est réellement fournie par les éditeurs actuels pour, donc, comme je le disais, des APC, en tout cas en biologie, qui tournent plutôt aux alentours de 2 000 euros avec des pics à 5 ou 6 000 euros pour des publications telles que Nature ou Science. Et donc, ça fait très rapidement penser à ces entreprises qui ont tendance à maximiser leurs profits sur l'utilisation donc d'une petite main-d'œuvre pas chère et sans reconnaissance réelle. Ce qu'on propose avec PubliScience, en fait, c'est de produire une coopérative donc de type SIC, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui a l'avantage de permettre de donner des sièges pour la gouvernance, à la fois à des institutions publiques, mais aussi à des individus, afin de distribuer au mieux la gouvernance de la structure et d'éviter un rachat par un puissant acteur privé actuel, comme on a pu l'observer récemment, avec diverses initiatives. Ici, l'intérêt est que, au fil du temps, plus la communauté de chercheurs devient engagée dans la coopérative, plus celle-ci prend une place importante sur le plan de la gouvernance de la coopérative Publiscience. la façon de créer cette coopérative et de fédérer donc une communauté de chercheurs autour de cette coopérative est de, selon nous, de créer donc une plateforme collaborative d'édition et de peer reviewing d'articles, donc qui est produite par l'ASAS Publifactory. Donc on a dû créer une SAS pour démarcher des financements, parce qu'il était un petit peu compliqué de trouver des financeurs, même publics, avec une coopérative. Et donc c'est cette SAS qui est actuellement incubée par Paris & Co. et qui a eu un petit financement par la BPI. Donc au sein de cette plateforme, ce qu'on a voulu faire, c'était de designer tout un ensemble d'outils intégrés permettant la production intégrale d'un article. Donc vous avez une petite vidéo de démo là sur le côté, donc on permet de gérer de l'importation de data tout format, soit à partir de bases de données en ligne, à partir de fichiers locaux, avec aussi des outils de représentation de ces données, comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, où on intègre en fait des interpréteurs Python ou R, ainsi que des éditeurs un peu plus simplifiés pour les personnes qui sont moins expérimentées. L'idée étant que lorsque l'article est partagé, les données qui ont au moins servi à produire les figures qui sont présentées dans l'article soient facilement accessibles aux lecteurs et aux reviewers, afin de minimiser le plus possible l'arrangement des données. Tous les articles présents sur la plateforme sont bien sûr en open access pour le grand public, et on essaye de mettre en place aussi des outils pour un peer reviewing ouvert des articles, donc par les chercheurs qui sont inscrits et identifiés sur la plateforme, donc sur la coopérative, et enfin donc aussi un système de post-acceptance peer reviewing pour permettre une évaluation sur le long terme des articles et reprendre en compte la façon dont un article influence un domaine au cours du temps. Ce qu'on essaye de faire, c'est, en tout cas ce qu'on a, le but qu'on s'est fixé, c'est de considérer que la valeur d'un journal actuellement est dans la marque de ce journal, et qui est ensuite publicisée sous la forme des impact factors et autres. Pour nous, la valeur d'un journal est dans la communauté qu'il fédère, et ça c'est sans doute un message que vous allez retrouver ensuite avec la présentation de Denis pour PCI. Et on veut recentrer donc l'impact d'un journal sur la réputation des chercheurs expérimentés ou des instituts qui vont créer en fait des collections à partir des articles qui sont publiés par la communauté dans un grand pool d'articles. Donc comment ça se passe ? Ici, je vous ai présenté quelques captures d'écran donc, de la plateforme sous sa forme alpha telle qu'elle est actuellement. Donc, vous avez un dashboard, un bureau, on va dire, où les articles que vous êtes en train d'écrire vous sont accessibles. L'idée donc est d'avoir un éditeur simple, qui permet à, encore une fois, l'utilisateur non expérimenté d'éditer chacune des boîtes, de créer de nouvelles boîtes pour les nouveaux paragraphes, d'inclure des figures sous forme d'images fixes ou bien de graphes interactifs, comme je vous l'ai montré dans la petite vidéo précédente. Chacun de ces articles donc est également converti automatiquement en LaTeX, ce qui permet une collaboration entre un auteur qui va vouloir écrire son article en LaTeX et un autre qui va écrire avec le Light Editor. On a un système de gestion des versions d'articles aussi, un peu à la manière de Git, pour faciliter le suivi d'évolution d'un article. Et donc une fois que votre article est prêt, donc vous l'avez écrit de manière collaborative avec vos co-auteurs, vous décidez de le soumettre, et cette fois-ci, donc la soumission consiste juste à exporter cet article vers un serveur de preprint classique. Donc le PDF ou l'EPUB est généré automatiquement, exporté sur le serveur de préprint et commence ensuite la phase d'open peer reviewing sur la plateforme. Donc on développe aussi des outils permettant d'identifier de manière la plus automatisée possible des reviewers potentiels pour l'article que vous fournissez. Donc ici, vous avez un exemple où on a collé l'abstract d'un de mes articles. On interroge une base de données sémantique qu'on a construite et qui vous propose en fait tout un tas de chercheurs pouvant potentiellement reviewer votre article du fait de leur expertise et de leurs articles publiés, afin d'essayer de brasser un petit peu plus le choix des reviewers que ce qui se fait actuellement, en tout cas en biologie. Donc une fois que cet article est accepté par les auteurs comme étant en open peer reviewing, vous avez ensuite donc, ces outils qui permettent, j'ai marqué un peu n'importe quoi, vous me pardonnerez, de commenter localement et d'y associer une valeur de critique, donc à savoir si ce problème doit absolument être résolu pour l'acceptation de l'article par la communauté ou si c'est un petit peu moins problématique. Chaque lecteur, utilisateur est potentiellement reviewer et peut classer donc, par un système de up et down vote, comme ce qui existe sur de nombreuses plateformes actuellement, ces micro-commentaires qui permettent de faire remonter les micro-reviews les plus pertinentes et faire redescendre assez rapidement les moins pertinentes. Et ces micro-reviews sont ensuite fournis aux lecteurs voulant fournir une review complète sous la forme d'un digest en fonction de l'importance des reviews. Voilà. Donc ça permet donc de faciliter aussi le reviewing des articles, d'augmenter le nombre de retours par article et donc de favoriser la pertinence et une critique constructive sur les articles. Si vous êtes plutôt du côté éditeur, et alors là c'est encore une chose à discuter et à définir, qui doit être éditeur ou non, vous pouvez créer donc votre journal, mais qui n'est pas, c'est pas réellement un journal en fait, c'est plus une collection où en gros, donc ici j'ai pris l'exemple de si Sorbonne Université Sciences Biologiques voulait créer son propre titre, sa propre collection en fait de travaux de biologie créés sur le site de Sorbonne Université et publiés localement, créer son propre journal et décide ensuite de sa ligne éditoriale en agrégeant en fait les travaux qui sont publiés sur la plateforme. Donc c'est l'éditeur qui choisit sur des critères de recommandation, encore une fois automatisés au maximum, les articles qu'il a envie d'intégrer dans sa collection, et donc c'est lui qui est responsable de la ligne éditoriale dans ce cas-là. Donc là c'est juste un exemple des visuels que nous avons actuellement sur la plateforme. On est toujours au stade d'alpha, donc tous les retours sont les bienvenus, bien sûr. Donc notre cible principale, c'est les chercheurs, en leur permettant, donc, du fait de ces outils totalement intégrés, de faciliter la production d'articles de recherche avec des figures qui sont standardisées, des standards statistiques qui sont respectés, et donc de leur permettre d'économiser du temps. Pour tout le système d'édition et de reviewing des articles, encore une fois, de gagner du temps, puisque l'ensemble du workflow est intégré à l'article, l'ensemble des micro-reviews reste intégré à l'article, et les reviews également. Et enfin, au niveau des institutions, potentiellement, ça leur permet de relocaliser en interne la gestion de leur production scientifique, et donc d'économiser des frais substantiels sur la publication et l'accès aux articles. Donc notre modèle économique pour le moment, c'est en se basant sur les estimations les plus récentes des coûts de publication Donc de faire payer aux chercheurs ou au laboratoire, à l'entité qui produit l'article en tout cas, un montant allant de 500 à 700 euros par article, en sachant que sur ce montant, une fraction d'environ 100 euros sert à tout ce qui est frais de fonctionnement, et que l'ensuite, l'excédent serait probablement redistribué parmi la chaîne d'édition et de reviewing. Ça, c'est des choses qui sont encore en discussion. On est aussi allé démarcher un certain nombre de tutelles institutionnelles pour essayer d'obtenir un financement un peu plus récurrent, ou en tout cas une aide minimum pour maintenir et développer la plateforme, et également avoir une certaine légitimité au regard des collègues qui produisent et veulent produire leurs articles à travers PubliScience. L'intérêt de la structure de type SIC, c'est que les bénéfices générés sont exemptés de taxes si réintroduits dans la structure qui les produit, ce qui permet de créer aussi un cercle vertueux sur la réutilisation de tout bénéfice généré et mécaniquement de réduire les coûts de publication avec l'augmentation de la fréquentation de la coopérative. Et avec, bien sûr, pour le citoyen dont les impôts servent à produire notre travail de recherche, un accès, bien sûr, totalement libre. Et la présence, en fait, de tout le process de peer reviewing étant attaché à l'article, ça permet aussi de gagner en transparence sur la méthodologie utilisée dans la construction de ces articles de recherche qui sont souvent assez obscur aux yeux du citoyen lambda. Donc, pour le moment, on a lancé le site juste diffusant l'initiative et le compte Twitter associé il y a un peu plus d'un an. On a commencé à partager la version alpha de la plateforme cet été. On doit encore créer la coopérative parce que créer une coopérative avec cette ambition nécessite d'avoir un soutien juridique pour les statuts que nous n'avons pas encore trouvé. Et donc, d'ici la fin de l'année, on espère pouvoir distribuer la bêta de la plateforme pour lancer officiellement en 2020. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le @publisciences. Je vous montre cette petite vidéo. L'idée, si elle passe, bon, tant pis, elle ne passera pas. L'idée était de... Bah, ça sert à rien vu que c'était plus visuel qu'autre chose, tant pis. Dans les présentations de ce matin, on a beaucoup parlé de méthodologie pour l'open science. Du coup, j'ai ajouté cette slide ici. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur Open Science MOOC sur Google, qui est une initiative qui a été créée il y a 2 ans par John Tennant. Et qui regroupe maintenant à peu près 800 ou 900 personnes qui produisent des médias libres d'accès, gratuits, pour les bonnes pratiques de l'open science. Donc je vous conseille d'aller y jeter un œil. Et puis je vais terminer cette présentation en remerciant aussi nos deux stagiaires qui nous ont énormément aidés sur le développement de la plateforme ces 6 derniers mois, Léo et Vincent. Et puis, merci pour votre attention.